18h sur Radio G.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Orange Monnaie à partir de 8h10 TU.
RFI.
Il est 8h à Paris et à Vienne. Bienvenue sur RFI, 6h à Dakar et en temps universel.
Michael Ponge.
Et elle a une Jacques Chirac idolâtrée, honorée par des milliers d'anonymes toute la nuit aux Invalides à Paris, là où débuteront ce matin les cérémonies pour l'ancien président français mort jeudi. Une journée de deuil national sur laquelle nous allons nous arrêter dès le début de ce journal. Rali Fassal libre, l'ex-maire de Dakar est gracié par le président Macky Sall. Ses opposants ont exulté hier soir à l'annonce de sa libération. L'ouverture ce matin du grand dialogue national au Cameroun et les espoirs de mettre fin à la crise dans les régions anglophones. Dans l'actualité aussi, les conservateurs qui gardent le pouvoir en Autriche, le chancelier sortant remporte les législatives d'hier. Mais avec qui va-t-il former une coalition? C'est la question et ça ne s'annonce pas simple. Nous serons en direct de Vienne. Et puis, l'enfer de Doha, la polémique enfle. Était-ce bien raisonnable d'y organiser les mondiaux d'athlétisme? La journée va reprendre ce matin là où elle ne s'est finalement pas arrêtée. Du début d'après-midi hier jusqu'au bout de la nuit, une foule immense, des milliers d'anonymes ont défilé aux Invalides à Paris, patientant jusqu'à 6 heures parfois pour certains bravant le froid, la pluie, la fatigue avant de pouvoir se recueillir devant le cercueil de Jacques Chirac recouvert du drapeau tricolore. Parmi eux, il y avait ce jeune homme rencontré par Laurence Théo.
J'ai 25 ans, mais Jacques Chirac, c'est le début de mon engagement politique et pour moi, ça représente un personnage politique important qui incarne la République en France et un certain art de vivre à la française qui dépasse à la fois les clivages et à la fois juste la politique politicienne. Une personne, hein, Jacques Chirac, c'est une personne. Et donc c'est assez émouvant, très émouvant de venir ici, même en tant que jeune. C'est pas une question d'âge, c'est une question de personne. Il y a une incarnation du gaullisme, un certain charisme de la personne qui reste quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la France, sans que ça soit des démarches qu'il ait entrepris lui-même très précises que j'ai en tête, mais quelques discours et honnêtement un rayonnement de la France à l'international, ce qu'incarne le président de la République en France. Hein, normalement c'est un symbole aussi de rayonnement international et c'est ça qu'incarnait Jacques Chirac.
Et en témoignent les messages venus du monde entier depuis la mort jeudi de l'ancien président et les quelques 80 personnalités étrangères attendues ce midi à la cérémonie solennelle qui sera célébrée en l'église Saint-Sulpice. On va s'y arrêter, mais d'abord on vous retrouve, Pierre-Olivier, en direct des Invalides où, je le disais, toute la nuit, la foule est venue pour rendre hommage à l'ancien président.
Oui, absolument. Les grilles des Invalides ont fermé il y a 1 heure à 7 heures ce matin après être restées ouvertes pendant près de 17 heures. Alors ceux qui ont décidé de venir cette nuit, ont pu éviter les files d'attente interminables et bien sûr, ils ont pu aussi se recueillir plus longtemps devant le cercueil et la photographie de Jacques Chirac. Le Premier ministre Édouard Philippe est d'ailleurs venu lui aussi tôt ce matin se recueillir avant les cérémonies officielles. Il y aura d'abord à 9h30 une messe solennelle célébrée en l'église Saint-Louis des Invalides en petit comité avec la famille. On ignore en revanche toujours pour l'instant si Bernadette Chirac sera présente, très affaiblie après le décès de son mari. Et puis après cette première messe, ce sera les honneurs militaires dans la cour des Invalides, en présence notamment du président Emmanuel Macron, Michael.
Les cérémonies qui se poursuivront, Pierre, par un hommage à la mi-journée, donc en l'église Saint-Sulpice.
Oui, Saint-Sulpice, à quelques kilomètres des Invalides. Et puis entre les deux, le cortège funéraire qui partira à 11h de l'hôtel des Invalides traversera une partie de la capitale et ce sera alors le dernier hommage populaire que pourra rendre la population à Jacques Chirac tout au long du parcours où des barrières de sécurité ont été installées. Et puis à Saint-Sulpice, une messe est prévue. Elle sera retransmise sur écran géant à l'intérieur de l'église. Pas moins d'une centaine de personnalités étrangères avec des présidents en exercice ou non. Citons par exemple Bill Clinton, l'ancien président américain, Vladimir Poutine ou encore le Congolais Denis Sassou Nguesso. Bien sûr, beaucoup de politiques français aussi. En revanche, Marine Le Pen ne sera pas présente comme l'a souhaité la famille Chirac. Et puis enfin, en début d'après-midi, ce sera l'inhumation du cercueil dans la plus stricte intimité cette fois au cimetière du Montparnasse où Jacques Chirac reposera aux côtés de sa fille Laurence, décédée en 2016, Michael.
Et une minute de silence sera observée à 15h. Pierre-Olivier, on dira direct des Invalides. Notez que RFI est en édition spéciale ce matin. Dès 11h pour suivre donc cet adieu de la France à Jacques Chirac. Totalement inattendu au Sénégal, acclamé par ses partisans, la libération hier soir de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, purgeait une peine de 5 ans pour escroquerie sur les deniers publics. Il est sorti de prison dans la soirée après avoir été gracié par le président Macky Sall. Remise totale de peine de la part du chef de l'État, précise le décret présidentiel. Depuis des mois, les soutiens de cet adversaire à Macky Sall réclamaient sa libération. Son avocat, maître Cheikh Kouriéchi Ba, est évidemment satisfait. Il tient à préciser que Khalifa Sall n'avait pas demandé de grâce.
Nous sommes dans une période de décrispation, de dégel, mais nous avons tenu à dire, M. Khalifa Bakar Sall saura mieux le dire que nous, qu'il n'a jamais été demandeur en quoi que ce soit et qu'il n'a mandaté personne pour solliciter une quelconque demande. Et il est resté donc sur la même ligne de conduite, à savoir la dignité. La grâce, ce n'est qu'une étape de ce combat. Le processus final, c'est la loi d'amnistie, effectivement. Il a subi toutes sortes d'injustices. Il a effectivement été dépossédé de son statut de maire, de député. Tout cela, je pense, mérite une loi d'amnistie.
Un propos recueilli à Dakar par Charlotte Tidrac. 3000 morts en 3 ans, 500 000 de déplacés. C'est peu dire que les espoirs suscités par le grand dialogue national au Cameroun sont énormes. Il s'ouvre ce matin à Yaoundé en présence de plusieurs centaines de participants pour tenter de mettre fin au conflit sanglant qui secoue les provinces anglophones. 5 jours de discussion et 8 thèmes au programme. Polycarpe Essomba.
Le palais des congrès de Yaoundé a achevé sa toilette des grands jours. C'est dans cette immense bâtisse que vont se dérouler les débats de ce grand dialogue national. Les travaux qui s'ouvrent ce matin par une séance plénière vont courir jusqu'à vendredi. Ces 10 derniers jours, le premier ministre Joseph John Nguté a consulté sous un rythme effréné des chefs de partis politiques, des leaders d'opinion et des associatifs de tout ordre, des chefs traditionnels et religieux, afin de récolter leurs propositions et d'arrêter la liste des participants à ces assises. Des invitations ont même été adressées à des leaders séparatistes radicaux, pour la plupart établis à l'étranger. Mais tous se sont empressés de rejeter l'offre. Pour ces derniers, si négociation il doit y avoir, elle ne peut se tenir qu'en terrain neutre et uniquement sur les conditions de la partition du pays. Ce sujet est de toute façon exclu du programme officiel des débats, tout comme le sujet sur la forme de l'État souhaité par certains acteurs comme le SDF et même quelques leaders francophones qui sont favorables à un retour à un régime fédéral. Le pouvoir, pour sa part, ne concède que des discussions autour de la décentralisation déjà inscrite dans la Constitution, mais dont l'application est défaillante. Autre thème de débat annoncé, le désarmement et la réinsertion des ex-combattants ou encore le retour des réfugiés. Polycarpe Essomba, Yaoundé, RFI.
7h08 à Yaoundé, une heure de plus à Vienne. L'Autriche où revoilà Sébastien Kurz. Le chancelier autrichien est bien placé pour revenir aux affaires 4 mois après la chute de sa coalition avec l'extrême droite balayée par le scandale de corruption de l'Ibiza-Gate. Son parti conservateur a terminé hier en tête des élections législatives, 37% des voix, 6 points de plus qu'en 2017. Score appréciable, mais avec qui gouverner? C'est la question ce matin. Anastasia Becchio, vous êtes en direct de Vienne.
Oui, la soirée électorale durant laquelle Sébastien Kurz et les autres chefs du parti ont sillonné les plateaux de télévision n'a pas permis d'y voir plus clair. Le chancelier sortant n'a pas donné d'indication sur sa préférence, car même si la victoire des conservateurs est plus large que ce qu'avaient prédit les sondages, il doit former une coalition avec au moins un autre parti. Sur le papier, il a 3 voire 4 possibilités. Renouer avec ses précédents partenaires du FPE, mais le parti d'extrême droite, crédité de 16%, est en chute de 10 points, très affaibli par le scandale d'Ibiza et les affaires de détournement de fonds qui ont émaillé la campagne. Autre mauvaise performance, celle des sociaux-démocrates du SPE, à 21,8%, ce qui rend une alliance avec les conservateurs peu probable. Reste l'option des Verts. Le parti écologiste fait son grand retour au Parlement et réalise un score honorable de 14%. Une coalition de ce genre existe déjà au Tyrol, mais contrairement aux 2 autres cas de figure, elle n'a jamais été éprouvée au plan national et les sujets éventuels de friction sont légion, tels que la taxe carbone ou la répartition des réfugiés en Europe. Enfin, Sébastien Kurz pourrait aussi décider, faute de mieux, de mettre en place un gouvernement minoritaire. Bref, une chose semble aujourd'hui certaine, la politique autrichienne n'en a pas fini avec les turbulences.
Anastasia Bécu, envoyée spéciale à Vienne avec Bertrand Éclair. Plus de 20 000 personnes hier à Moscou. Grand rassemblement pour dénoncer les poursuites judiciaires intentées aux manifestants de l'été dernier. Souvenez-vous, ces arrestations massives en amont des élections locales. Des manifestants accusés de violence contre la police, notamment condamnés aujourd'hui à des peines de plusieurs années de prison. Dans le cortège, Daniel Valo pour RFI.
Liberté pour les prisonniers politiques, le slogan est repris par la foule massée derrière les barrières métalliques érigées par la police. Parmi les manifestants, nous rencontrons Véronica. La voix tremblante, elle nous parle de ces manifestants de l'été dernier qui ont été condamnés à plusieurs années de prison.
Je suis venue parce que la même chose peut m'arriver à moi aussi. La détention illégale, la prison. Je peux sortir dans la rue pour manifester et ils peuvent m'arrêter et me battre. Alors je défends mes droits, ma liberté et je défends aussi ces personnes-là.
C'est également par solidarité que Larissa est venue manifester. Cette mère de famille estime que les accusés doivent être non seulement remis en liberté, mais aussi blanchis par la justice.
Les accusations qui leur sont faites sont complètement fausses, ou alors elles sont totalement absurdes. Certains sont accusés, par exemple, d'avoir lancé un gobelet en plastique vers les policiers. J'estime que ces gens ne sont coupables de rien.
Sur les 12 personnes encore derrière les barreaux suite aux manifestations de l'été dernier à Moscou, 6 ont été condamnés à plusieurs années de prison, 6 autres sont dans l'attente de leur jugement. Daniel Valo, Moscou, RFI.
En Allemagne, un procès sous haute surveillance qui s'ouvre ce lundi à Dresde. Dans le box des accusés, 8 hommes, membres d'un groupuscule néo-nazi, soupçonnés d'avoir voulu perpétrer des attentats contre des étrangers, des responsables politiques, membres du groupe dit Révolution Chemnitz. Et puis une autre affaire qui occupera les tribunaux allemands à compter de ce lundi. Et pour plusieurs années, premier procès d'ampleur des consommateurs contre Volkswagen. Des centaines de milliers de clients qui demandent réparation aux constructeurs auto pour des voitures au diesel truqué. Le chiffre fait froid dans le dos. Écoutez bien, 45 millions de photos ou vidéos pornographiques impliquant des enfants repérées l'an dernier sur Internet. C'est aux États-Unis que ça se passe, chiffre donné par le New York Times. Et encore, Lumna Anaki, on ne parle là que d'images signalées par les entreprises de la tech.
Durant des mois, les journalistes du New York Times ont interrogé des victimes, des familles, des policiers et même des pédophiles. Sur Internet, la circulation de photos ou de vidéos montrant des enfants violés, agressés et parfois torturés n'a jamais été aussi importante. En 10 ans, le nombre d'images d'enfants est passé de moins d'un million à 45 millions. En ligne, les pédophiles peuvent partager, publier, échanger durant des années en toute impunité. Ils sont de plus en plus pointus en informatique et réussissent à contourner les contrôles grâce à des techniques de cryptographie très avancée. Le New York Times cite notamment l'exemple d'une récente affaire impliquant un pédophile de l'Ohio qui avait réussi à cacher plus de 3 millions de photos et vidéos sur ses ordinateurs. En face, les équipes d'enquêteurs chargées de ce genre de crimes sont dépassées et manquent de moyens financiers et techniques. Légalement, les géants d'Internet, eux, sont obligés de signaler ces vidéos et photos aux autorités lorsqu'ils en trouvent, mais rien ne les oblige à les chercher pour les éliminer. L'année dernière encore, une vidéo montrant un homme violant un enfant de 6 ans était devenu viral sur Facebook avant d'être supprimé. Si des entreprises comme Google et Facebook assurent s'engager dans la lutte contre la pédopornographie, beaucoup ont du retard à rattraper et sont encore trop lentes à réagir. Lumna Anaki, New York, RFI.
Enfin, ces images de sportifs à terre entourés par des équipes médicales, vous les avez peut-être vues ce week-end au milieu des cris de colère poussés par de nombreux sportifs. Mais qu'est-on allé faire dans cet enfer pour le résumer? Doha, le Qatar où se déroulent les mondiaux d'athlétisme en Dabon et médecin du sport. Organiser des compétitions dans de telles conditions, c'est ne pas considérer les sportifs, dit-il.
Je crois que c'est un manque de respect pour les sportifs. C'est pas le but du sport de faire souffrir les gens. Vous prenez n'importe quel animal, quand il fait chaud, il se couche puis il se cache. Hein. Donc là, moi j'ai vu les images comme tout le monde et quand j'ai vu ces hommes arriver, presque tous, hein, dans des souffrances atroces à terre, ça fait presque mal, plus que plaisir que de voir de telles arrivées. Bon, Il faut comprendre que le corps humain peut s'adapter à toute situation. On a des hommes, des êtres humains au Groenland, on a des êtres humains qui vivent dans des endroits très très chauds. Hein. Les gens qui y vivent ne sont pas stupides. Et généralement, je ne pense pas avoir vu des gens qui habitent dans le désert courir sur 50 km. Généralement, ils se protègent, ils sont à l'abri et ils évitent les fortes températures. Donc là, on a l'impression, au contraire, que ceux qui organisent ces compétitions recherchent les mises en condition, justement, qui ne sont pas du tout physiologiques.
Polémique à 3 ans du mondial de football, propos recueillis par Christine Siebert.